Alors, je voudrais dire deux, trois petits mots pour situer d'où je parle, en fait. J'ai enseigné pendant 10 ans dans des classes de CP-CE1 dans une école en ZEP pas loin d'ici. Et puis, à la limite, enfin, je vous dirais, je m'y trouvais bien, j'étais bien avec mes élèves, et ça se passait bien. Et j'avais même pas l'impression qu'il y avait des choses particulières qui se passaient avec les élèves de CP. Bon. Et puis, j'ai pris le poste de coordination des réseaux de la ville où je travaillais. Et on a fait un diagnostic au moment où on a rédigé nos contrats de réussite en 2008. Et là, je vous en parlais assez rapidement parce que ça me semble assez intéressant. Sur le secteur d'un collège, donc 5 groupes scolaires. Sur ces 5 groupes scolaires, il y en a 2 qui étaient classés en ZEP dans l'école où je travaillais. Un qui était classé milieu difficile, en gros, qui avait à peu près les mêmes difficultés que les écoles de ZEP, mais sans les moyens. Et puis 2 écoles plus favorisées. Et puis pour faire ce diagnostic, on a fait un suivi de cohorte des élèves qui étaient rentrés en 6e 4 ans auparavant, pour voir ce qu'ils étaient devenus au bout de 4 ans. Et on a fait suivi de cohorte en regardant l'école d'origine. Voilà. On s'est aperçu qu'au bout de 4 ans, pour les 2 écoles les plus favorisées, 100% des élèves avaient eu leur brevet. Pour les écoles en ZEP, il y en a une qui était un peu plus mixte socialement, où on arrivait à un peu plus de 50% des élèves qui avaient eu leur brevet au bout de 4 ans. Pour les élèves de mon école, ça tombait à 33%. Et puis pour les élèves de l'école classée milieu difficile, ça tombait à 25%. Voilà. Moi, je vous avoue que ça m'a fait un sacré choc. Et puis, quand on regardait un peu pourquoi les élèves qui venaient de mon école, ils n'étaient pas arrivés au brevet au bout de 4 ans, notamment pour les garçons, c'est parce qu'ils avaient été exclus. Ils n'étaient plus au collège. Voilà. Et je crois que j'ai vraiment pensé mon travail de coordonnateur sur ces 5 ans où j'ai fait ce travail-là, à essayer de comprendre, en fait, ce qui se passait. Voilà, ce que je suis venu aussi trouver quand je suis venu à des stages de formation ici dans ces années-là, c'était vraiment des réponses pour comprendre ce qui se passait et puis qu'on puisse construire de la formation qui fasse un petit peu avancer ça. Et alors, ce que j'ai trouvé ici, et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important de le partager, de le diffuser, c'est que ce que montre la recherche en éducation et sur les inégalités de réussite scolaire, c'est des résultats qui sont assez contre-intuitifs par rapport à ce qu'on a l'habitude de penser quand on est dans sa classe, tranquillement, dans son école en ZEP. Voilà. Et donc, c'est 2-3 éléments que je vais essayer de vous présenter ce matin avec Patrick. Pour que, voilà, on essaye de penser un peu cette difficulté des élèves des milieux populaires. Alors, je vais reprendre je reprends des diapositives que j'emprunte à des chercheurs qui sont venus parler au cours de différents stages ici. Et alors, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est, les enfants qu'on accueille en éducation prioritaire, est-ce que avant d'arriver à l'école, ils ont une spécificité? Alors, c'est Sylvie Seb, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui nous en avait parlé lors d'un stage qui s'appelait la maternelle en une éducation prioritaire, qui était venue présenter un certain nombre d'éléments qui me semblent vraiment intéressants. Alors, au début de sa présentation, elle met ce grand panneau, parce que ça me semble important. Les catégories, entre guillemets, qui sont présentées dans ce travail-là, c'est des catégories statistiques. Ça ne veut pas dire qu'on peut les plaquer telles quelles sur telle ou telle famille des milieux populaires. Enfin, voilà. Il faut qu'on fasse attention aux catégories qu'on manie. Mais il me semble que ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Et les catégories que montrent ces travaux-là, je crois qu'ils sont aussi à mettre en relation avec des choses qui ont pu être dites hier par Fabrice Dume. C'est-à-dire que si il y a des modalités éducatives dans les milieux populaires, c'est non pas des propriétés des familles des catégories populaires, mais c'est bien des choses qui se construisent dans les rapports de pouvoir et dans la situation de domination dans laquelle elles se trouvent. Voilà. Alors, donc Sylvie Sem, en gros, elle explique, elle s'appuie sur des recherches qui disent qu'il y a trois catégories il y a trois styles éducatifs dans les familles. Ce qu'elle appelle la structure éducative rigide, la structure éducative faible et la structure éducative souple. Donc, structure éducative rigide, on a des règles qui sont très strictes, qui ne sont pas négociables. Beaucoup de régularité, peu de perturbations. Structure éducative faible, c'est quasiment absence de règles. Certains diraient c'est post-68 art, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Structure éducative souple, on a des règles, mais il y a des négociations possibles. Et il y a une bonne proportion de régularité par rapport aux perturbations. Et donc, quand on étudie l'effet sur le développement des enfants de ces structures éducatives, on se rend compte que les structures éducatives faibles sont celles qui favorisent le moins le développement des enfants. Ensuite, on trouve les pratiques rigides, qui sont celles qu'on retrouve majoritairement dans les milieux populaires. Donc, et ça aussi, c'est un petit peu contre-intuitif. Parce que souvent, notre réaction d'enseignante, quand on voit le comportement des élèves à l'école, on se dit, mais ils ne sont pas tenus. Et c'est ce qu'on renvoie souvent aux familles. Alors qu'en fait, souvent, le cadre est très rigide. Et le style éducatif souple, qui est peut-être celui qu'on retrouve un peu plus dans le milieu enseignant, j'allais dire, si en tant qu'enseignant, on se pense aussi comme parent, et c'est celui qu'on retrouve dans le milieu enseignant, dans les classes moyennes, et peut-être celui qu'on met en œuvre en classe. Et du coup, ce qui est interrogé, c'est l'interaction entre un style éducatif assez souple en classe avec un style éducatif qui peut être beaucoup plus rigide dans les familles. C'est-à-dire que, bien souvent, les enfants des milieux populaires, en arrivant à l'école, se retrouvent avec une structure éducative qui est plus souple que chez eux. Un cadre qui leur semble plus lâche. Et aussi un élément, quand Sylvie Sepp parle de ces structures éducatives rigides, c'est que le contrôle est très strict de la part des parents, mais il n'est pensé qu'en présentiel. Je ne peux contrôler que quand je suis là. Je ne peux contrôler que ce que je vois. Il n'y a pas de contrôle à distance. Alors que ce qu'on va peut-être plus mobiliser à l'école, c'est l'autonomie, l'intériorisation des règles. Et là aussi, on se retrouve sur quelque chose où il y a une forme de distorsion entre le milieu familial et le milieu scolaire. Alors, voilà, je vous mets un certain nombre de conceptions qui relèvent d'un côté... des représentations éducatives du style plus rigide, et puis d'autres, celles qui sont dans les styles éducatifs plus souples. On voit bien que d'un côté, ce qui compte, c'est l'obéissance, le respect des règles de manière absolument non négociable, et d'un autre côté, il y a autre chose. Ce qui est mis en avant, c'est la curiosité, c'est l'esprit critique, l'autonomie. Quand on met l'enfant dans une tâche, par exemple faire un puzzle, ce qui compte, d'un côté, c'est le résultat, la bonne réponse, alors que de l'autre côté, c'est les stratégies efficaces, la compréhension et l'amélioration du fonctionnement cognitif mis en œuvre. D'un côté, on a un guidage qui est très directif, Et puis si l'enfant n'y arrive pas, on va lui donner la réponse. Et puis on va fournir ce que Sylvie appelle les feedbacks négatifs. Alors que de l'autre côté, on a une conception où c'est à partir de l'erreur qu'on peut apprendre. On va pas faire à la place, mais par contre on va essayer de faire un guidage qui permet de construire des stratégies. Vous savez, pour le puzzle, tu commences par chercher des coins, faire le tour. Et donc on a deux types de contrôles qui sont complètement différents. La synthèse qu'elle donne de ça. Un guidage qui vise la réussite immédiate mais pas la compréhension. L'adulte contrôle est fait à la place. Et si l'aide de l'adulte est efficace pour permettre à l'enfant de réussir, elle ne l'est pas pour atteindre un véritable apprentissage. Alors que de l'autre côté, voilà. Quand on a un regard un peu réflexif sur voilà, nos pratiques de parents à la fois enseignants, je pense qu'on se remémore un certain nombre de situations et de choses qui renvoient à ça. Voilà. Sylvie Seb, elle présente un autre problème qui me semble aussi fondamental. C'est au niveau du langage. Le graphique là qu'elle montre, donc c'est le nombre de mots qui sont mobilisés en fonction de l'âge, en fonction du milieu social par les enfants. Et on voit la différenciation qui se produit sur donc, ça, le bout du graphique, 36 mois, c'est donc à l'âge de 3 ans, la différenciation qui est en fonction des milieux sociaux. Et c'est corrélé au nombre de mots qui sont adressés à l'enfant dans son milieu familial en fonction des milieux sociaux. Et il y a un deuxième élément sur le langage, c'est que non seulement le nombre de mots appris et adressés à l'enfant diffère fortement en fonction du milieu social, mais l'interaction dans le langage se passe pas tout à fait de la même manière. Un enfant des milieux favorisés entend 32 encouragements et 5 interdictions par heure, alors qu'un enfant de classe moyenne 12 encouragements, 7 interdictions par heure. Et un enfant des milieux populaires, 5 encouragements et 11 interdictions par heure. C'est des enquêtes statistiques, je vous passerai les détails que Sylvie Seb a un peu expliqué, mais voilà. C'est-à-dire, quand on parle d'estime de soi et de choses comme ça, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà construites quand les enfants arrivent à l'école. Et ça, quand les interactions après vont se construire à l'école, quand on réfléchit au feedback que nous on renvoie sur les élèves qui se trompent, sur les élèves qui ont du mal à se comporter correctement dès la maternelle, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir tendance, en fait, à renforcer encore par des feedbacks négatifs ce sentiment de j'y arrive pas, je suis pas capable d'eux, etc. Donc ça, c'est quelques éléments des enquêtes qui ont pu avoir lieu sur les milieux populaires, sur l'âge préscolaire. Voilà. Après, ce qui me semble important de regarder, c'est comment ça va se passer du côté de l'école. Alors, ça a été rappelé hier, l'inégalité face à la réussite scolaire, elle n'a fait que s'accroître depuis 1995. Et puis, ça aussi c'est parfois contre-intuitif, ce qui est montré c'est que ceux qui sont quelque part le plus maltraités par l'école, ce sont les garçons issus des milieux populaires. Alors, les travaux de recherche qui montrent à la manière, donc les processus par lesquelles les inégalités se construisent à l'école, que je vais vous présenter rapidement. Donc, sont beaucoup issus donc d'un groupe de recherche qui s'appelle RESEDA, qui comprend beaucoup de chercheurs de l'université Paris 8 ESCOL. Donc il y a un livre qui est sorti récemment, je crois en 2010 ou 2011, qui s'appelle La construction des inégalités scolaires, qui a été dirigé par Jean-Yves Rochex et Jacques Crinon, qui met bien ça en avant. Alors je vais vous parler un petit peu de ces travaux-là, et puis des travaux aussi de Séverine Cacpeau, qui fait partie de ce groupe ESCOL, et qui a plus particulièrement travaillé la question des devoirs à la maison. Alors, en gros, ce qu'explique Jean-Yves Rochex, c'est que ces processus de production des inégalités scolaires, il y a deux versants. Le versant de ce qu'ils appellent les différenciations passives, que d'autres ont appelé indifférence aux différences, c'est-à-dire que la mise en œuvre des situations, elle requiert de tous des choses qu'ils n'ont pas forcément construit en dehors de l'école et qu'on ne se préoccupe pas de construire en classe. Et du coup, l'action de l'élève ne met pas forcément en œuvre l'activité intellectuelle qui permettrait de construire les apprentissages visés. Et là, on peut renvoyer à tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les interactions dans les familles. Construire des stratégies, comprendre que quand je fais quelque chose, je construis un apprentissage, c'est des choses que l'école ne se préoccupe pas forcément de construire, alors que c'est pas construit pour tous. Dans ces différenciations passives, on pourrait aussi parler de ce que ces chercheurs appellent la croyance dans l'équivalent travail. On fait tous comme si c'est la quantité de travail fourni qui produisait des résultats scolaires. On interagit avec les élèves comme si c'était ça, uniquement ça qui comptait. C'est ça qu'on met en jeu dans la relation avec les familles. Je vous passerai ce qu'on peut lire à longueur de bulletins scolaires dans les collèges en ZEP. Manque de travail, manque de travail, manque de travail. Mais du coup, non seulement c'est quelque chose qu'on met en jeu dans la relation, mais en plus, c'est pour une bonne part un mythe. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'élèves qui fournissent énormément de travail, et ça, on en reparlera peut-être quand on parlera du travail de Séverine Cacpeau, mais parfois c'est du travail qui n'est pas efficace, et parfois c'est même du travail qui est contre-productif. Et donc du coup les résultats ne suivent pas, et parfois des élèves qui ont fourni énormément de travail se retrouvent avec une mention sur le bulletin « manque de travail ». Et c'est aussi comme ça que parfois du sentiment d'injustice se construit. Deuxième chose qui là aussi est assez, je dirais, contre-intuitive, et quand j'ai entendu pour la première fois une des chercheuses qui est dans ce réseau-là, qui s'appelle Marceline Lapara, en parler, c'est quelque chose qui nous heurte en tant qu'enseignant. On met en œuvre, dans les situations de classe, ce qu'ils appellent des différenciations actives. C'est-à-dire qu'à propos de la même tâche scolaire, donnée à tous, on va avoir des interactions différentes en fonction des représentations qu'on a en tant qu'enseignant, des capacités de chacun des élèves.
Exemple.
Un exemple. Une situation présentée par Marceline Lapara, que certains connaissent sans doute. On est en classe de grande section. Le maître demande aux enfants d'écrire le mot escargot. Évidemment, en grande section, ils n'en sont pas capables comme ça. Donc, les enfants disposent d'une espèce de petit répertoire où ils ont déjà un certain nombre de mots qu'ils ont utilisés. Et donc, il faut qu'ils arrivent à se servir de ce répertoire, retrouver le mot escargot pour pouvoir le recopier sur leur feuille. Donc les enfants se mettent au travail et la plupart d'entre eux n'y arrivent pas sans aide du maître. Donc le maître vient vers chacun d'eux. Alors, avec une première élève, il va s'asseoir à côté d'elle. On voit la vidéo vraiment filmée de près. Il va prendre le répertoire et puis il va lui montrer comment, avec les lettres qui sont sur le côté du répertoire, on va essayer de repérer le mot escargot. Voilà, il commence par la lettre E, on va chercher la lettre E, il montre avec son doigt, il ouvre à la bonne page avec elle. Ensuite, il lui demande dans la page de chercher le mot escargot. La petite fille ne le trouve pas. Elle reconnaît le prénom d'un des élèves de la classe, mais elle ne trouve pas le mot escargot, donc il lui montre. Et puis il lui dit, bon, ben, on va l'écrire. Alors je vais l'écrire à ta place, mais tu vas me l'épeler. Et donc la petite fille lui épelle le mot. Et sous la dictée de la petite fille, le maître écrit escargot. Deuxième élève, donc un garçon qui se retrouve exactement dans la même situation de difficulté, dont Marceline Lapart a dit qu'il a exactement les mêmes capacités. Le maître vient s'asseoir à côté de lui. Le maître ouvre le répertoire directement à la page du mot escargot, lui demande de trouver le mot escargot, il ne le trouve pas, il lui montre, et puis il lui dit, ben, je vais l'écrire, regarde bien ce que je fais. Et il écrit le mot escargot. Donc, même situation, et en fait, sur deux petites interactions, il y a une élève qui a été en situation d'apprendre des choses, sur l'ordre alphabétique, sur la manière dont on trouve les choses dans un répertoire, sur la manière dont, quand on écrit un mot, on l'épelle, donc c'est une suite de lettres. Et l'autre élève s'est trouvé dans une situation où il n'a rien appris. Alors, on pourrait se dire que si c'était le hasard et que, voilà, dans un autre moment... cet élève-là, il se retrouve en situation d'apprentissage et pas l'autre, ça pourrait se rééquilibrer. Mais Marceline Lapart, qui a suivi ses élèves pendant 2 ans dans deux classes différentes, en grande section, en CP, ce qu'elle a observé, c'est que ces interactions, elles se produisent toujours de la même manière pour les mêmes élèves. Et ce qu'elle en dit, c'est que ça se produit de cette manière-là en fonction des préjugés qu'on a de la capacité des élèves qui sont liés à ce qu'on... c'est sur leur situation. On a des préjugés qui sont liés, voilà, à la précarité des situations familiales, à l'origine des élèves. On a des préjugés liés à... voilà, parler d'un enfant issu d'une famille monoparentale. Et si on n'a pas la même interaction avec ces élèves-là, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de leur apprendre des choses, d'une part. C'est parce qu'on n'a pas envie de les mettre en difficulté. On se dit, ils vont pas y arriver, donc on va leur éviter des obstacles. Mais ce faisant, on ne leur apprend pas un certain nombre de choses. Voilà. Et ce qu'elle montre aussi, c'est que quand on va faire du travail de groupe, vous savez, les groupes de besoins, c'est dans les groupes où les élèves sont... vous savez, on fait en maternelle souvent les groupes de grands parleurs, les groupes de petits parleurs, etc. C'est dans les groupes... où on suppose que les élèves sont les moins en difficulté, qu'on va apprendre le plus de choses, et dans les groupes où les élèves sont supposés être plus en difficulté, qu'on va apprendre le moins de choses. Voilà. Et ces interactions-là, elles se construisent, et elles construisent effectivement petit à petit de la difficulté scolaire réelle, puisqu'il y a un certain nombre d'élèves qui petit à petit accumulent des choses qu'ils n'ont pas apprises. Voilà.